c'est pas particulièrement une injonction à travailler pour moi. Ça l'est, mais ça l'est parmi plein d'autres, voilà ce que je veux dire. Et ça l'est parmi plein d'autres en particulier parce que bah peut-être j'ai dans ma formation, notamment universitaire, il y avait une telle présence flaubertienne qu'il fallait d'une certaine façon s'en débarrasser. Enfin, pour moi, c'était quasiment vital. Donc j'ai eu une période où, au contraire, c'était plutôt l'éloignement qui travaillait qu'autre chose. Mais à ce moment-là, je me souviens très bien d'avoir fait une expérience de lecture à un moment donné à partir des trois contes en me disant, voilà, chaque fois que je vais replonger dans les trois contes, j'entourerai chacun des trois contes de deux nouvelles Stendhal. Je t'assure que c'est une dynamique de lecture absolument extraordinaire. Parce que les particularités de chacun, apparaissent encore mieux de parler simplement par le contraste. Et que du coup, c'est une lecture de sept contes qui est très très intéressante.
D'ailleurs, moi j'ai ressenti, pardon, Jacques, mais pour poursuivre votre dialogue, mais j'ai ressenti, la fin du livre, l'analyse par les sonnets des trois contes comme une forme de renversement, de prise de pouvoir un peu sur les trois contes, c'est-à-dire une volonté d'inscrire aussi les trois contes dans un système d'analyse qui est le système d'analyse jouettien, je ne sais pas si on peut le dire de cette manière. Donc je vois, parce que quand vous m'avez proposé je vois très bien que Pierre Sange revendique aujourd'hui très clairement, y compris avec cette adaptation, d'être un écrivain dans cette influence, et comment Jacques Jouet est dans une influence un peu agonistique. Hein, et ce livre me semble le manifester.
Effectivement, j'avais dans Trois Pontes, très très modestement, j'avais envie de faire beaucoup mieux que les Trois Pontes de Flaubert. J'ai raté, rassurez-vous, j'ai raté.
Une belle idée d'édition, d'épouser donc les sept contes qui seraient autour des trois contes, les nouvelles de Stendhal. Voilà une idée de livre à proposer à un éditeur. Et vous,
j'ai pas vraiment tout à fait la même expérience. J'ai un rapport à Flaubert qui a pu être peut-être plus lointain et avec un attachement très fort à la correspondance et une lecture des livres peut-être plus lente et plus. Oui, plus lent, plus difficile. Le travail de l'adaptation, au départ, c'est un travail de commande. C'est vraiment une commande. C'est l'aspect très trivial de la chose. Donc, ça me rend encore plus pécuchéen, au sens où c'est vraiment le travail du copiste, presque le travail du copiste abouti. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Mais quand même avec un plaisir, parce que la commande, c'est fait par échange avec une proposition, avec plusieurs propositions de ma part de plusieurs textes à adapter, puis celui-là a été choisi. Et pour moi, ça a été l'occasion d'une vraie redécouverte du texte de l'intérieur, ou presque de l'intérieur, parce que le travail de l'adaptation, si je vais comparer un petit peu au travail de l'adaptateur, très modestement, c'est un travail qui nous oblige à aller vraiment à l'intérieur de la technique, de la cuisine, de la machine. Comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, comment les scènes s'enchaînent, comment les dialogues sont écrits, comment sont les personnages. On est obligé de savoir comment tout cela est fait de l'intérieur. Et le mimétisme que j'essayais d'évoquer tout à l'heure vient aussi en partie de ça. On est obligé tellement à l'intérieur de cette machine-là qu'on a l'impression de faire partie du processus et qu'au bout d'un moment, l'identification au personnage doit aussi avoir lieu pour des raisons très simples, c'est qu'on doit écrire des dialogues, on doit écrire des dialogues qui n'existent pas forcément dans le livre, on doit inventer. Cette invention est une usurpation, est une profanation, est un sabotage, parce qu'on ne sera jamais Flaubert, mais on espère que ça passe par une sorte de mimétisme, vraiment au sens comédien du terme. Et ce mimétisme, il s'accomplit encore plus quand, très concrètement, les comédiens à la radio ou sur scène vont à leur tour prendre le texte en bouche. Et si les répliques de Flaubert s'internent assez bien avec les modestes répliques de l'adaptateur, là on sent que l'usurpation a eu lieu. Et que... Alors après, si cette identification-là a une influence sur mon travail pour la suite, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que. Je n'ai pas pu ne pas parfois comparer ma situation d'autodidacte, amateur, imposteur avec certains des traits psychologiques, même s'ils sont très fictionnels, de Gouvernet Pécuchet, hein, ce mélange de fascination et de répulsion, par exemple. Alors, on a parlé d'enthousiasme et de dépression, mais il y a aussi ces deux aspects qui sont très présent chez Bouvard et Pécuchet, la fascination d'une certaine façon pour le savant, qui est un mot finalement assez vague, le savant, qui dit beaucoup de choses, mais, et ça aussi c'est très, à la fois très autodidacte et très amateur, cet orgueil qui consiste à conspuer le savant, et à conspuer les institutions. Et c'est un défaut, mais je peux m'y reconnaître aussi là-dedans.
Hélas. C'est le brique du dossier, c'est haine des grands hommes.
Oui, c'est ça. Tonner contre. Et ça, c'est un travers assez typique, y compris aussi des érudits locaux.
Ça, on est tout près du Panthéon. Moi,
Monsieur Tesson.
Merci. Tesson, je vous parlais de travail pécuchéen, mais pas bouvardesque. Alors, à supposer que Flaubert n'ait pas écrit Bouvard et Pécuchet, mais Bouvard et ou Pécuchet, j'adresserai évidemment la question à Jacques Jay, comment auriez-vous pratiqué l'identification que vous avez à faire ce que vous avez lu?
Voilà, mais là, ça serait vraiment un exercice, je ne sais pas où il vient, Bouvard. Sans Pécuchet. Ouais. C'est vrai que je m'étais amusé, mais je dis qu'il faudrait que je le retrouve dans mes paragraphes et que je le recopie. J'avais imaginé, je ne sais plus, la mort de Pécuchet et Bouvard obligé de l'enterrer et d'essayer de suivre, d'écrire ça comme un des épisodes du livre, c'est-à-dire l'obsèque, le deuil, comme une des sciences qu'ils essayent d'apprendre, de pratiquer et de construire à la fin. L'enterrement de Pécuchet par Bouvard. Mais ce n'est pas vraiment la réponse à votre question, mais c'est un élément que vous savez pas.
Je crois que si Pécuchet était mort avant Bouvard, Bouvard aurait mangé Pécuchet pour essayer d'ingérer et pouvoir devenir vraiment Bouvard et Pécuchet à lui tout seul. Bonne expérience.
C'est une question à Pierre Sange sur. Quand vous avez cité cette phrase de Robert sur 93, ce bon homme sont en plein d'épices. Alors, d'abord, je ne sais plus à quelle date se situe cette phrase. S'il l'a dit par rapport à Pécuchet, le Bouvard, et donc on peut se demander de quelle matière ils sont faits, hein, eux, s'ils sont en quoi, en bois, sans doute pas, en plein d'épices, pas du tout, peut-être en rien. Hein. Donc, c'est la question de. Que vous avez dû justement éprouver dans l'adaptation du statut de ces personnages, qui sont très particuliers par rapport aux autres œuvres, hein, comment les faire exister. Parce qu'il y a quand même le côté ce qui est, je trouve, frappant, c'est le côté marionnette, et puis ce passage où Pécuchet pleure. Je pense que. Moi, je crois aux larmes de Pécuchet. Hein, et puis Pinocchio pleure aussi. Et donc, comme adaptateur, justement, comment avez-vous. Est-ce que ce sont deux instances, uniquement des instances vocales, vous avez parlé de dialogue et tout. Quel est leur niveau d'existence et quel problème ça a été pour vous? Alors c'est pour la radio, c'est déjà très différent du cinéma. Est-ce que vous pouvez dire aussi ce que vous pouvez concevoir pour le cinéma, par exemple, où ils apparaissent? C'est très différent de la radio. Entre radio-cinéma...
Oui, c'est différent. Il existe une adaptation télévisée avec Marielle et Carmé. En fait, ça ne pose que des problèmes, et des problèmes qu'on ne résout pas forcément, d'ailleurs. parce que c'est très difficile, déjà l'adaptation est toujours un sabotage, est toujours, on a toujours l'impression de trahir beaucoup et de, d'abîmer et de réduire et d'enlever l'essentiel. Donc effectivement la question de l'incarnation des personnages se pose très souvent et je ne suis pas sûr de la résoudre. Les comédiens après aident pour l'adaptation radio, c'était Philippe Magnan et Dominique Pinon. Je ne sais pas si vous avez ces comédiens bien en tête, mais du coup il y avait un Bouvard très rond et un Pécuchet très une voix plus énergique, un peu plus sec. Alors après ce sont des hasards de distribution, c'est peut-être pas comme ça pour les voix, mais c'est comme ça qu'ils ont été incarnés. Mais c'est très difficile. Enfin, pour moi, c'était vraiment assez difficile et j'ai renoncé à faire des choix qui étaient contradictoires. C'est-à-dire d'aller trop du côté de la marionnette, enfin d'une paire de marionnettes aux répliques interchangeables, ou les incarner parce qu'on et les caractériser beaucoup parce qu'on a besoin de ça un petit peu pour la radio. C'est très difficile parce que j'ai l'impression, enfin c'est ma modeste lecture, que leur statut change au fur et à mesure du roman et que même au fur et à mesure des scénarios, voilà, il y a des différences, j'avoue on en a parlé très très bien, mais qui sont des différences relatives les unes aux autres, mais ces différences s'estompent, disparaissent, il y a une génialité, parfois cette génialité disparaît comme celle d'après où les antagonismes beaucoup plus forts sur des questions de religion ou de philosophie. Enfin, et c'est assez difficile de gérer tout ça, je ne suis pas sûr d'y parvenir, parce que de toute façon, il faut faire quelques sacrifices. Ce qui est sûr, c'est que dans l'adaptation radio, les derniers épisodes sont vraiment beaucoup plus abstraits et les voix, ou en tout cas les personnages, deviennent vraiment du pont et du pont. Il y a vraiment une disparition du côté beaucoup plus psychologique de ces personnages. Et pour l'adaptation théâtrale, faut voir après comment c'est interprété, mais voilà, la réduction est encore plus forte parce qu'ils ne sont que deux sur la scène. Et c'est plus un jeu de langage et un jeu de construction de l'univers plutôt qu'un jeu avec Bouvard et Pécuchet. C'est plus le titre, c'est Dialogue de Bouvard et Pécuchet copiste. C'est vraiment comme cela qu'il faut l'entendre, c'est pas Bouvard et Pécuchet. C'est comment ce monde se construit, et l'adaptation est très différente du livre, évidemment, mais c'est un aspect du livre qui a été retiré, comme s'il n'y avait que la couverture, puis voilà, on va jouer avec la couverture, mais enfin, c'est pas le livre, c'est clairement pas, mais ça repose quand même sur des phrases de Flaubert, sur ce qu'on pourrait en retirer, parce que ce qui m'a amusé surtout pour l'adaptation au théâtre, c'est ce passage-là, c'est cette espèce de parcours scientifique ou épistémologique, je ne sais quoi, ou savant, du plus trivial au plus abstrait. Voilà. C'est ce jeu intellectuel qui m'amusait.
Peut-être moi j'aimerais poser une question à l'un et à l'autre en précisant que c'est une question de contemporanéiste, puisque je ne suis pas 19e et pas flaubertien. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce qu'on appelle Bouvard et Pécuchet et dans l'œuvre de Flaubert, notamment tel que Pierre Sange l'a rappelé dans sa correspondance, c'est évidemment le dictionnaire des idées reçues, le sottisier, cette partie-là de Bouvard et Pécuchet, et d'un autre côté, l'extraordinaire attention à la technicité de l'écriture, des supports, tu as rappelé hein, à quel point c'est une épreuve de copier, etc. Mais de manière générale, c'est vrai que dans la correspondance, c'est un des écrivains qui parle le plus du caractère très concret, voilà, du travail avec le support, etc., etc. Et ça, je pense que ces deux choses-là sont extrêmement mobilisées dans la littérature contemporaine et dans l'esthétique contemporaine, à la fois ces formes très curieuses que sont des formes hybrides comme le dictionnaire, Patrick Orenik, encore une fois, a commencé par écrire des dictionnaires de l'usage un peu singulier du tchèque. Alors, ils ne sont pas traduits, donc je n'ai pas pu les consulter, mais cette pratique du dictionnaire, du sottisier, c'est-à-dire de la mise en avant d'extraits, où il suffit de composer. Alors, évidemment, Benjamin l'avait fait, mais on le retrouve partout dans l'art contemporain. Et l'extrême attention, alors dans un sens comme dans l'autre aujourd'hui, qui est donnée à l'écriture comme processus matériel technique. Alors, est-ce que j'ai pas vraiment de questions là-dessus, mais il me semble que c'est deux éléments dont nous héritons chez Flaubert, qu'on voit un petit peu partout, et qu'en tant qu'écrivain contemporain, peut-être vous pouvez avoir en partage et sur lequel vous pouvez avoir un certain nombre d'idées.
Oui, pas que chez Flaubert. Moi, je suis à l'affût dans ce que je lis, pas uniquement, mais je suis à l'affût, effectivement, de ces éléments techniques de l'écriture qui, malheureusement, comme ça, n'intéressent pas grand monde dans l'histoire littéraire et la glosse, sont assez difficiles à trouver. Donc, c'est en plus une quête très intéressante. Par exemple, je me suis beaucoup intéressé au roman feuilleton à cause d'un roman feuilleton que j'ai commencé à écrire il y a 15 ans de ça. Mais c'est extrêmement difficile d'avoir des éléments concrets sur l'écriture du roman feuilleton au XIXe siècle. Alors on dit des idées générales comme ça sur la périodicité de l'écriture, sur le jour le jour. En fait, c'est pas toujours si sûr que ça. Souvent, les feuilletons sont préécrits traditionnellement et redécoupés après. Et puis, on a énormément de choses alors sur les personnages du roman feuilleton, sur les topoïs du roman feuilleton, tout ça. Oui, ça, on a beaucoup de choses. Techniquement, c'est difficile à trouver. Dans Flaubert, c'est évident, dans la correspondance, c'est un lieu où on apprend plein de choses et où il n'a pas peur de descendre dans les soutes pour nous raconter des choses. C'est très, très...
Et sur ces formes, je crois aussi, dans votre œuvre, vous êtes assez fasciné aussi par ces formes un peu non conventionnelles aussi qu'on trouve.
Alors elles le sont presque devenues, je veux dire, le dictionnaire est presque devenu un petit peu. Ça n'a pas, je pense, peut-être la même force, en tout cas pour moi, comme force d'incitation que ça pouvait l'avoir il y a un siècle, il me semble.
D'accord.
Parce qu'il y a eu, c'est toujours pareil, il y a comme ça des idées très, très géniales, et puis après il y a... Regardez par exemple, je me souviens de Georges Perec, c'est un exemple frappant. Il y a cet acte tout à fait extraordinaire de dire je veux faire des Je me souviens qui ne sont pas des Je me souviens personnel, comme l'étaient ceux de Joe Brenner dans le I Remember, mais je veux faire des souvenirs communs. Et après, 99% des gens qui ont fait des Je me souviens après sont revenus aux souvenirs personnels, ce qui est une trahison de l'idée géniale de Perec. Donc voilà, ça fait partie effectivement d'un capital potentiel des œuvres dans lesquelles on plonge tous, on va chercher notre bien, mais il faut faire une nouvelle synthèse de ça, sinon on répète la copie. Moi j'ai d'autres choses à dire sur la copie, mais peut-être après.
Non, je dis, après, continue.
Vas-y. Non, à toi, je parlerai après.
Alors peut-être quelqu'un va parler quand même, hein. Donc trois personnes se proposent de parler, Jacques Jouet, Pierre Sange et, pardon,
Myriam
Marachko.
Merci de me donner la parole. Moi j'étais très très intéressée. Je pense que la copie est centrale, enfin c'est une question vraiment centrale dans tout ce qui a été dit. Moi aussi j'étais frappée et vivement intéressée par ce que vous avez dit, Pierre Sange, au début, notamment sur la question de l'erreur de copie qui est conceptuelle.
C'est comme Forard, je n'ai fait que copier comme Forard.
C'était une bonne idée.
Non, mais je suis content que tout le monde m'intéresse cette idée formidable. C'est la machine à copier. Tu vas amener sur ta tête.
Je voulais mettre en relation cette remarque-là avec les remarques de Jacques Jouet concernant le couple masculin du titre, qui est un petit peu incongru en fait dans son époque, dans la tradition des titres, des couples de titres. Et au fond, c'est une gémellité, enfin c'est une façon de mettre deux copies côte à côte, enfin l'un étant une forme d'erreur de copie de l'autre, puisque bien sûr ils n'ont pas du tout la même apparence, mais enfin ils se ressemblent beaucoup, à ceci près qu'il y a une erreur de copie entre l'un et l'autre en quelque sorte. Et c'est une erreur de copie créative puisque ça forme un couple, et un couple qui fonctionne très très bien d'ailleurs dans le texte. C'est une erreur créative. Alors ça c'est un petit peu, ça irait dans le sens de la copie qui en faisant des erreurs devient une réécriture, une création véritable. Et vous avez évoqué aussi une autre copie, celle des gens du Louvre qui vont copier des tableaux à l'identique. Et dans ces cas-là, je reviens à ce que vous disiez à la fin sur l'exposition où on expose des copies de Cézanne, etc. Et là, ça s'appelle un faux. Alors, c'est plus de la création au sens... ça peut s'appeler un faux. Et je pense que c'est intéressant parce que dans la logique qui est celle de Bouvard Pécuchet, c'est-à-dire c'est quand même une logique de collectionneur, la question du faux, elle est centrale. On peut se faire, en fait, profiler, si j'ose dire, des faux sans s'en rendre compte. Le seul moyen de s'en rendre compte, c'est d'être un peu expert, c'est-à-dire d'avoir des connaissances, de manière à pouvoir discerner le vrai du faux. Or, c'est un petit peu ce qu'ils font pendant tout le livre, c'est d'essayer d'avoir suffisamment de connaissances pour en arriver à un niveau d'expertise dans l'un et l'autre des domaines qu'ils inventeraient, quoi. Or, ils n'y arrivent pas, puisqu'ils arrivent aussi à se faire leurrer, à se faire duper, à acheter très cher des choses qu'ils n'en veulent pas, etc. Donc, ils tournent autour de cette question aussi de l'objet et puis du problème qui peut être associé, le problème de la copie, quand on n'arrive pas à un degré de connaissance suffisant pour discerner le bel original du faux un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est au XVIIIe siècle, en fait, on commence à discerner dans les collectionneurs de curiosités, on commence à discerner le curieux de l'amateur du connaisseur. Donc il y a une vraie hiérarchie qui se met en place, le curieux étant simplement une forme de... voilà, quelqu'un qui s'intéresse aux choses. L'amateur un petit peu plus averti, le collectionneur, véritable expert. C'est là qu'on commence l'expertise en histoire de l'art, etc. Mais voilà, qui sont Bouvard et Pécuchet, ce qu'ils tendent à être, quel est leur rapport à la...
Justement, bon, on peut imaginer que ce sont des doublons.
Oui.
Si, en parlant d'erreur de copie, des doublons. Mais, je suis assez mal placé pour parler de tout ça, mais j'ai côtoyé ces derniers temps justement un connaisseur et des historiens de l'art. Et la question de l'authenticité, en fait, est très 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 compliquée, toutes les époques, même y compris pour un connaisseur, parce que il y a des différences entre les toiles ou les frères, mettons les toiles authentiques qui ne sont pas forcément autographes. Déjà une différence. Et tout ça devient très, très compliqué. La question du vrai et du faux se mêle. Et alors, je ne sais pas si c'est vraiment mis en scène dans le livre, mais oui, peut-être, je ne sais pas. Mais,
Alors, par contre, je ne suis pas du tout spécialiste de Flaubert.
Non, mais
tu t'as dit des grosses bêtises.
Non, pas du tout. Non, mais c'est une vraie question. Mais...
Il me semble que l'idée de faux est quand même intégrée au récit de l'art moderne. Elle est supportée par le récit de l'art moderne. Sans le récit de l'art moderne, il n'y a pas de faux, d'une certaine manière. Donc, ça, c'est une vision que...
Il y a des exemples de Rouen, et il y a des médecin désigne comme faux, le notaire désigne comme faux, donc il la casse, après ils se disent, mais au fond, c'est peut-être que le notaire est déjà lu. La question de l'authenticité est entière, complète.
Oui, c'est
c'est-à-dire qu'ils ont peut-être détruit l'original simplement parce qu'on leur a laissé entendre que c'est... Mais on est en plein dedans.
La question du collectionnisme et de la question des collectionneurs, la valeur des objets.
La question est absolument centrale dans le livre, le vrai et le faux. C'est même la question.
Je suis désolée, j'ai dû m'absenter pour l'organisation de l'après-midi. On a parlé hier de la question des références fictives. Des références fictives dans Bouvard et Pécuchet, des références bibliographiques fausses, comme il est indiqué dans les scénarios. Je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure.
Non, mais on est sur cette question.
Le roman absorbe cette question de... Parce qu'on a vu qu'il y avait déjà un embryon de typologie possible, avec les références fictives fausses, comme par exemple le manuel Le rationalisme de Louis Hervieux, qui n'existe pas, mais aussi un intervenant a montré qu'il y a... Il y a une référence bibliographique qui existe, mais qui en fait recoupe un travail sur d'autres livres. Donc finalement, les notes de lecture qui sont derrière le passage renvoient à d'autres livres que le... Oui. Donc il y a des références en trompe-l'œil. Ça serait à construire,
Pour l'adaptation radiophonique, j'ai cité beaucoup d'extraits du Sautillier, et j'en ai rajouté, c'est pas vraiment défaut, mais j'ai modernisé le Sautillier. Quelques extraits de Julia Kristeva ou de... qui sont passés comme une lettre à la poste. Ah oui, sur la technique, c'est ça.
Oui, non, mais il faut dire que cette question était un tout petit peu dictée aussi par le dîner d'hier où on avait commencé à discuter et où vous m'aviez parlé aussi de très concrètement de la technicité de votre travail à, oui, à vous.
Non, mais la réponse que j'ai trouvée est formidable, et je pourrais dire la réplique célèbre, comme il a dit Louis.
Tout pareil.
Je suis aussi passionné et aussi à la recherche de ces éléments-là qui sont finalement assez rares. La correspondance en études, les carnets d'un RGM aussi, de façon différente, c'est pas quelqu'un qui va parler de la construction de la phrase vraiment à l'intérieur comme faut faire, mais par contre, pour prendre des leçons de construction des récits, c'est exceptionnel. Voilà, c'est un régime dans ses carnets, il invente ses récits en les écrivant. Il compose, il fait son plan comme s'il parlait haute voix, c'est assez beau. Mais j'ai toujours été frappé par la différence entre un article. Des articles critiques littéraires, des articles critiques cinématographiques, y compris dans des revues relativement populaires. Un article critique cinématographique ou un entretien peut se permettre, puisque c'est du cinéma, d'aller très profondément dans des questions très triviales de technique. C'est-à-dire qu'on va demander quel objectif utilise le cinéaste, quelle pellicule, quel cadre, quel éclairage, etc. Par contre, c'est assez rare, voire inexistant, dans un article de littérature, de poser des questions sur l'utilisation des adverbes ou sur la longueur de la phrase. Et les rares fois où on pose cette question, enfin moi je me souviens d'avoir posé cette question, j'étais dans la salle à un auteur, et le modérateur s'est excusé en disant nous allons pas trop parler de cuisine, mais précisément, je veux pas parler de cuisine des fois. Et ça me manque.
Et au-delà de ça, Pierre, pardon de vous couper, mais il y a non seulement la technicité de l'écriture, mais il y a aussi la technicité des supports sur lesquels on travaille, c'est aussi très très présent, et aussi on en parle très très peu. Je suppose que vous vouliez parler de ça sur le roman feuilleton aussi. C'est vrai qu'on se pose vraiment énormément de questions à la fois. Donc voilà comment on travaille pour le roman feuilleton.
Oui, le rythme d'écriture en particulier. Le rapport au temps de l'écriture. C'est ça qui m'intéresse en particulier.
Pardon, Pierre, je vous ai coupé. C'est la cuisine, elle est à double niveau. Il y a aussi une cuisine avec la batterie de cuisine. Il n'y a pas que les ingrédients. Quoi.
Oui, mais alors peut-être que je tombe sur le mauvais article ou je ne trouve pas. Mais effectivement, je trouve ça assez rare. Parfois, justement, ce sont les traducteurs qui vont en parler parce que eux sont autorisés à dire voilà, j'ai eu du mal à traduire telle phrase de tel auteur parce que cette langue est construite comme ceci, comme ça. Et là, moi, je trouve ça passionnant, même si c'est pas forcément quelque chose que nous allons appliquer tout de suite, mais c'est beau.
Alors, les spécialistes de génétique le font.
Oui, non, mais là, je parle de littérature journalistique populaire. Parce que pourquoi, dans la littérature journalistique populaire du cinéma, on est passionné par des questions aussi triviales que la lentille ou l'objectif utilisé. Donc, c'est possible, ça peut intéresser.
La musique, la critique musicale, pas dans le détail de la technique de composition.
En vous écoutant, j'avais une question vraiment banale. Je voulais savoir si Flaubert forgeait le terme d'idée reçue, dans le dictionnaire des idées reçues aussi. La formule existe déjà, parce que j'ai manqué, je m'en explique, le début des débats. Mais il y avait un regard très positif, finalement, à cet acte de copie, de se mettre dans les pas de l'autre, etc. Dans ce terme même d'idée reçue, on a l'idée d'un don, hein, c'est une idée qui est reçue de quelqu'un, qui finalement va manifester quelque chose de l'art de la tête, et en même temps d'un poison avec toute l'ambiguïté du don qui peut se mettre en place. Et finalement, en écoutant vos débats, je me disais qu'il y a quelqu'un qu'on ne rattache pas souvent à Flaubert, mais qui est Paul Valéry, dont tous les casiers pourraient se penser comme un dictionnaire des idées reçues, mais en sens vraiment inverse, puisque Valéry a conçu son œuvre comme un examen justement de toutes les idées extérieures pour essayer dans un effort de table rase pour remettre à plat absolument tout et être certain qu'il recevait ce qui était recevable par lui, c'est-à-dire ce qu'il allait en fait réévaluer dans un geste à la fois philosophique, refondateur, etc. Et qu'il a aussi posé une question très ambiguë de publicité à faire à la chose. Fallait-il publier ou non les cahiers, les revoir, etc. Donc quelque chose qui se posait la question du nettoyage, et de cette formule nettoyer la situation verbale, donc du nettoyage de tout ce qui venait de l'extérieur pour le rendre propre. Et d'une certaine façon, c'est la même démarche, mais inverse, que celle que fait Flaubert dans cette perte de soi, cette impersonnalité, dans ce passage-là. Et du coup, voilà, la question, c'est un long passage, excusez-moi, mais avec ces petites demandes d'information, mais quelle est la part d'exorcisme qu'il y a dans un acte de rejet, de copie, et quelle est la part d'exorcisme qu'il y a aussi pour préparer ou trouver quelque chose de l'ordre d'une voie propre, de purge aussi, hein, le mot y a pas.
Qu'est-ce que vous pourriez répondre dans votre propre travail?
Moi, je vais répondre sur la question d'idées reçues. Oui, alors l'idée reçue, c'est Flaubert n'a pas inventé l'expression. Moi, j'avais travaillé là-dessus sur l'histoire de l'expression idée reçue. En fait, c'est une idée, c'est un syntagme qui apparaît au XVIIIe siècle. Et c'est d'abord au sens neutre, justement, de ce que tu dis, c'est-à-dire les idées admises. Et puis ça prend le sens de préjugé au sens dans un contexte de guerre religieuse. Hein. C'est du préjugé religieux, les idées reçues, et les philosophes sont contre les idées reçues. Et puis au XIXe siècle, il y a une laïcisation du contexte, et les idées reçues, ça s'inscrit dans une opposition entre l'artiste bourgeois, les préjugés de la norme sociale. Et Flaubert, dans la lettre où il parle de la future préface du dictionnaire des idées reçues, se met dans la tradition de Champfort. Les idées reçues sont du côté de ce qu'il faut dire, de la norme, du convenable, de... voilà. Et donc, il y a bien cette idée de l'idée admise et qu'on ne remet pas en question. Et il me semble que tout le dispositif énonciatif du dictionnaire des idées reçues est fait pour piéger le lecteur, c'est-à-dire pour mettre le lecteur devant la nécessité d'avoir sa faculté de juger et devant la question du jugement. Ça, c'est une question que Claude Mouchard avait soulevée, hein, la question du jugement, qui est celle de Bouvard et du Cuchet aussi dans le roman, mais qui met le lecteur, et c'est faire que tout un chacun, étant donné l'inégalité des énoncés du dictionnaire des idées reçues, puisse se trouver perplexe devant un énoncé comme pensée pénible, par exemple, qui peut être pris, bien sûr, dans tous les sens du terme, et aussi imbécile, ceux qui ne pensent pas comme vous. Voilà. Alors, je ne réponds pas complètement à ce que tu as dit, peut-être je vous laisserai répondre à la suite, mais la question des idées admises, effectivement, en fait, Flaubert part en guerre contre ça. Et disons, pour finir de répondre, s'il n'a pas inventé le syntagme, il lui a donné une force d'absolu qui fait que quand on cherche idée reçue dans un dictionnaire, immédiatement la référence est à Flaubert et au dictionnaire des idées reçues. Et enfin, encore une dernière chose, au XXe siècle, enfin disons à notre époque, idée reçue est devenue le synonyme d'idée fausse, c'est-à-dire en fait les idées reçues, c'est les idées des autres qu'il faut combattre et rectifier. Mais Flaubert lui donne toute sa force d'idée dans laquelle on est, enfin de la convention dans laquelle on peut se trouver chacun.
Donc avec un lien fort finalement, l'idée de topos en rhétorique.
Oui, du topos, mais le topos c'est simplement la communauté d'idées, la trivialité, les chemins qui se croisent. Tandis que dans l'idée reçue, il y a quelque chose de plus violent et de plus lié à l'autorité, qui est ce qu'on doit dire et ce qu'on doit dire, ce qui est donc. Hein, ce qui est. Ce sont les idées aussi du côté du pouvoir. Il y a une dimension d'autorité.
C'est pour ça que je pense à la rhétorique, en fait, sur ce qui va être efficace dans une argumentation, en fait, parce que justement, on questionne l'idée en
fait. Oui, oui.
Ça, jouer.
Oui. Oui, idée reçue. L'idée reçue est liée à la satire. Enfin, à cause de Flaubert, l'expression va être vue du côté satirique. Et si on prend par exemple l'expression qui est peut-être un peu synonyme de lieu commun, le lieu commun, alors c'est peut-être aussi péjoratif de parler de lieu commun, mais quand même, la vertu d'un lieu commun, c'est peut-être d'être commun, précisément. C'est-à-dire que ça signifie collectif, ça signifie une communauté, ça signifie un ensemble de, voilà, à partir de quoi on peut réfléchir. Je parlais tout à l'heure des Je me souviens de Georges Perec, le surtitre du livre, c'est Les choses communes. Les choses communes. Et il y avait un projet qui n'a pas eu le temps d'achever, où il y avait d'autres listes de choses communes. les lieux dans lesquels on dort, je ne sais pas quoi. Donc, on peut aussi. Je crois que idée reçue et lieu commun, il y a le côté, toujours le côté péjoratif qui est présent, mais je tiens à ce qu'il y ait aussi un côté qui est extrêmement intéressant à cause de l'idée de commun.
Oui, ben comme dans les a priori, après tout, les a priori qui peuvent être finalement comme un synonyme d'une idée reçue, mais qui sont ceux dont on ne peut pas se débarrasser de toute façon avant d'aller voir une personne, de découvrir quelque chose, de fonctionnement des a priori. Mais c'est vrai que le côté péjoratif des lieux communs, ça va être les exégèses extraordinaires de Londres. Mais. Pour revenir à cette histoire, si on pense le lieu commun aussi comme un pensif, ça me fait beaucoup penser à la guerre que mène Nabokov contre le pensif, et qui rejoint parfois par certains détails de Gustave Flaubert, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer un certain devoir de littérature comme tout le travail qu'on doit faire pour éviter d'être dans le pensif, en tout cas littéraire. Et les solutions envisagées par Flaubert sont à peu près les mêmes, parmi tant d'autres, que celles envisagées par Nabokov, c'est-à-dire éviter les idées générales vagues, mais vraiment travailler dans le détail. Et Nabokov a un très beau éloge du détail. Il dit c'est pas l'histoire d'amour qui fait la beauté d'Anna Karénine, c'est l'histoire d'adultère, non, ça va être tel détail de la géométrie ou de la géographie du wagon, de chemin de fer. Et Flaubert, dans sa correspondance, parle aussi du détail, l'attention au détail. C'est comme ça qu'il va se détourner lui-même de son moi. Et si tout le mal vient du moi, du personnel, c'est aussi parce que le réflexe facile, ça va être de tomber justement dans nos propres lieux communs à nous, dans des facilités, dans un premier jet qui n'est pas intéressant. C'est la bifurcation vers le détail ou vers le plan qui va être intéressant et qui va donner quelque chose d'autre.
J'avais une mission jusqu'à midi et demi, alors est-ce qu'on...
On peut prendre un quart d'heure encore, mais ensuite. Ah ouais, voilà.
Moi, j'avais deux petits voilà. Choses. Oui, vas-y.
Donc, toujours sur l'idée aussi, l'une des particularités qui s'en va dans le sens, c'est, comme elle disait, ce sont des énoncés d'autorité. Mais le paradoxe de Nietzsche, d'ailleurs, je me souviens à rapport à cela aussi, c'est que cette singularité que je me souviens d'être, je me souviens de tous, du monde, du commun en plus, je me souviens de ce qui était en train de disparaître quand j'ai commencé à m'en souvenir. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la culture est en jeu. Dénonce cette particularité de l'autorité d'un énoncé qui consiste à affirmer sa propre singularité précisément en étant la parole du monde. Et c'est-à-dire que le fait que chacun, avec le lieu commun, s'annonce « moi je pense que » et précisément « je pense ce que on pense hein, », cette chose qu'il faut penser. C'est-à-dire cette sorte de piège de l'affirmation de soi par la voix de tous. Et ça, c'est très très curieux, c'est très puissant. Et en particulier, il y a beaucoup des lieux communs, des reçus qui sont des tonner contre, protester contre. Or, c'est précisément ce que Flaubert fait. Donc, il tonne contre le tonner contre. C'est-à-dire que le dictionnaire des reçus montre qu'il y a des attitudes d'hostilité, de tonner contre, de singularité, moi, monsieur, etc., qui précisément sont insupportables. Et tout le dictionnaire piège cela. Il piège la singularité du tout, de la pensée du tout. Et ça, c'est tout à fait saisissant. Moi, je le redis je me souviens qu'il lui fait le travail inverse. Ça apparaît complètement singulier, mais non, c'est de chacun, ça donne à chacun. Et je me souviens, c'est extraordinairement généreux.
Oui, bien sûr.
Là, c'est une espèce de mélancolie de tous. Alors que le tonner contre, là, c'est très violent, très puissant.
Et
c'est pas la peine, il n'y a plus de prix. Comme hier. C'est pas le meilleur, ça c'est un...
On entend très bien.
Le tonner contre s'exprime aussi dans le dictionnaire des idées reçues par des exclamations, des éléments de vocalité, d'oralité qui ne sont pas loin du théâtre. Il y a beaucoup de points d'exclamation dans le...
très bêtement, pour écrire des dialogues de radio, puis dans le dictionnaire, on peut faire des lignes et des dialogues en mettant le dictionnaire dans le bon sens.
Ce qui
ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, ça existe déjà dans les romans. L'éducation sentimentale est pleine de moments où il est reçu et narrativisé. Il y a cette phrase, le dialogue entre Frédéric et Madame Arnoux qui sont dans un coin d'une soirée où tous sont réunis. Et Flaubert écrit, il causait de ceux dont on parlait. On est vraiment dans le registre Flaubert, il causait de ceux dont on parlait. C'est vraiment cet univers de la voix commune. De ce qui se dit autour.
Il y a cette phrase aussi sur, dans Madame Bovary où il dit la conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire. Voilà. C'est merveilleux, quoi. C'est exactement ça.
Ce qui est d'ailleurs un choix esthétique fondamental, passer à la vie ordinaire. On sait ce qu'au XXe siècle, la vie ordinaire deviendra comme auteur, parce qu'il y a une histoire de cinéma.
Oui, complètement autre chose, mais on parlait tout à l'heure de Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, qui est voilà, on le convoque pour parler de la copie, hein, beaucoup. Mais attention, dans le Pierre Ménard ne copie pas le Quichotte. Pierre Ménard a la prétention de réécrire le Quichotte et de réécrire, il s'y prend comme un manche entre nous. Bon, ça c'est autre chose. Il ne fait que, je crois, deux chapitres, si mes souvenirs sont bons, parce que pourquoi il veut retrouver les raisons profondes pour lesquelles le Quichotte a été écrit. Il faut qu'il repasse par ce qu'il imaginerait être les raisons profondes. Bon, il y avait d'autres solutions techniques avec lesquelles il aurait très bien pu réussir. Il aurait fait un S-7 complet du livre de Cervantes, et ensuite il aurait refait un S-7. Là, il aurait très facilement achevé son œuvre en... Bon, ça aurait pris un petit peu de temps, mais pas tant que ça, finalement. Mais comme c'est un...
Le dictionnaire aurait changé.
Ah non, le même dictionnaire.
Le même dictionnaire.
Mais comme c'est un métaphysicien, évidemment, il se complique la vie terriblement, donc il va chercher des raisons très très... Pas du tout techniques, précisément, hein, des raisons de contenu. Et il ne fait que deux chapitres. Alors, je précise ça parce que par exemple, dans le livre de Pierre Bayard sur le Pays en participation, il y a, à mon avis, une incompréhension totale de la lecture de Pierre Ménard. Alors là, relisez les pages de Pierre Bayard là-dessus, il n'a pas lu Pierre Ménard autour du Quichotte, c'est pas possible.
Et on lui posera la question.
Une deuxième chose qui n'a strictement rien à voir, mais je voulais vous faire une surprise aujourd'hui, je n'ai pas réussi. Donc je suis très marié, mais du coup je vais vous passer une commande. Il y a de ça à peu près une vingtaine d'années, j'ai vu une exposition à Paris, je crois, si ma mémoire est bonne, ce qui est globalement très douteux, comme chacun sait sur la mémoire, je crois que c'était au Palais de Tokyo, une exposition de photographie du 19e siècle qui s'intitulait Panorama, si ma mémoire est bonne, mais encore une fois c'est très douteux. Au pluriel. Dans cette exposition, il y avait donc des photographies de panorama, hein, des très longues photographies, où je pense que vous voyez ce qu'on avait ils avaient conçu à ce moment-là des appareils photo qui permettaient de faire des panoramiques. Et il y avait une vue de la place de la Bastille. Le bâtiment d'angle qui correspond aujourd'hui au boulevard Henri IV et boulevard Bourdon. Au-dessus des bâtiments, il y avait une grande enseigne en très grosses lettres, écrivain, au singulier. Écrivain. D'après la date de la photo, si mes souvenirs sont bons, ce qui est très douteux, encore une fois, c'était dans les années de boulevard Pécuchet. Donc je me disais, quand j'ai vu cette photographie, je me suis dit, Flaubert a vu cet endroit, avec cette grande enseigne écrivain, probablement une enseigne d'écrivain public, à cet endroit. Et mon hypothèse, c'est qu'il a choisi cet endroit pour cette raison. Donc j'aimerais bien retrouver cette photo, je l'ai cherchée pour vous la projeter aujourd'hui, je ne l'ai pas retrouvée, je n'ai pas trouvé de catalogue, je ne suis pas très fort pour naviguer sur Internet pour aller chercher ça. Mais je n'ai pas vu de référence du catalogue de l'expo. Et peut-être il faudrait la retrouver, je pense. C'est une commande.
C'est plus une commande. C'est presque un souvenir. C'est-à-dire, je me souviens de ça.
Toi aussi?
Oui. Maintenant que tu l'éveilles, je crois que c'est de ça.
Tu avais vu cette expo?
Oui, j'avais vu cette expo. Je me souviens de ça.
Donc, cette photo existe de toute façon.
C'est très curieux. Ça. On va. La commande est enregistrée.
Michel Vincent, si on retrouve la photo, on peut trouver dans les archives de la ville de Paris la liste adresse par adresse, numéro par numéro, des occupants, des propriétaires, des locataires, des activités professionnelles, etc., différentes années.
C'est devenu un sujet de thèse alors.
Et sur ce point, c'est tout à fait vraisemblable. L'enterrement d'Ambroise dans la Déclaration sentimentale au Père Lachaise a lieu à un endroit précis où il y a un tombeau de la famille Saint-Julien. Véritablement. Et ce tombeau existait. L'abbé Juliette Frelick qui a trouvé ça, on était allé au Père Lachaise et finalement on a vu le renseignement, le tombeau de Saint-Julien était là. Donc,
Ambroise
est enterré là où la famille Saint-Julien. Ah, donc, cette idée d'une photo existante en Bouvard ou dans écrivain, c'est
ressemblable. J'ai repensé l'autre jour, quand tu disais dans ton intervention, que Flaubert affirmait la formule écrivain contre auteur.
Oui. Parce qu'un auteur, ça gagne de l'argent. Un écrivain, ça gagne de l'argent.
C'est pas faux.
Si vous voulez, on peut conclure. Merci à vous deux encore.